Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1193, en ce samedi 6 mai. J'espère que tout le monde va bien. Dans ce 1193e numéro de Sweet Home Chicago, du blues et pas que, comme chaque semaine, SHC se joue des 12 mesures pour vous proposer une petite part du meilleur de ce qui est blues ou bluesy d'hier ou d'aujourd'hui. Sweet Home Chicago, première heure, ce sera un nouveau disque du mois avec Bernard Selam and the Boys from the Hood, le premier album du nouveau band, du désormais ex-leader d'Awake. Après une interview fleuve donnée à Sweet Home Chicago le 18 mars dernier, le disque sera diffusé par deux fois chaque samedi de mai. On aura droit également à une belle rubrique Europe avec l'accent mis sur le blues rural et du folk blues, avec Limmy and the Blue Beat, avec Paul Coley, avec Hoffman and the Blues Experience, Anne Diaz and Yokata Brothers et The Marchals. C'est le leader du groupe normand Blue Steel, Denis Sénécal, qui nous retransportera en 1971 à l'époque de ses 14 ans avec son amour immodéré de Creedence Clearwater Revival et de son leader toujours actif Tom Fogerty. Dans ce 27e numéro de My Rockers, il revient essentiellement sur l'album Cosmos Factory et nous explique l'origine de son titre. En deuxième heure, des détails tout à l'heure bien sûr, mais sachez qu'il y aura un monstre sacré du cinéma et un géant du blues rock made in France qui s'unissent pour une interview de choc donnée au dernier Cognac Blues Passion. Je veux parler bien sûr de Manu Lanvin et Gérard Lanvin. Allez, en attendant, on démarre avec monsieur Bernard Selam. Bernard Selam and the Boys from the Hood, ça s'appelle Feeling So Fine. J'évoquais tout à l'heure l'interview de Bernard Selam qu'on vient d'entendre chanter et jouer de la guitare sur cet album Feeling So Fine. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur le Mixcloud et toutes les infos bien sûr sur Sweet Home Chicago sur le site blues.radio666.com. C'est parti pour notre rubrique Europe avec des Français. Tout d'abord Limmy and the Blue Beat, le nouveau projet de Joe Pento avec un extrait de ce nouvel album qui s'appelle Feel So Bad. Voici Blue Over You. We'll be right back.
sleeping when you're not there? How's he been when you're not in my bed?
You, c'était donc Limmy and the Blue Beat. On continue avec Paul Collet, qui est un Anglais installé en Bretagne depuis fort longtemps maintenant. Paul Collet, qui vous interprète ici un extrait de son nouvel album Stroll Out West. Ça s'appelle On My Way.
Might weep, baby, as you might mourn.
On My Way, donc ici par Paul Collet. L'occasion de revenir sur quelques belles pages du festival Band Blues, avec notamment une prestation de Paul Collet dans un petit bar qui était vraiment magique. On continue avec Hoffman Family Blues Experience. Alors là, c'est Vincent Hoffman, David Hoffman et Nadia Hoffman, plus 7 ou 8 musiciens. Hoffman Family Blues Experience avec leur album qui porte justement ce titre. Voici tout de suite l'extrait, ça s'appelle My My Hey Hey, vous allez reconnaître. Bien sûr, le répertoire de Neil Young. La magie du répertoire de Neil Young avec le Hoffman Family Blues Experience. On reviendra sur ce disque dans quelques semaines, ensuite au Chicago. Voici la suite de notre balade en Europe avec d'autres Français. Ils nous viennent du Nord, mais la chanteuse, elle, vient de bien plus loin, Buenos Aires en Argentine. Anne Diaz and Yucatan Brothers s'applaudit lors du dernier bain de blues à Bain-de-Bretagne avec ce tout nouvel album Alana, dont j'ai tiré un extrait qu'on va écouter immédiatement, qui s'appelle Gone Away. À signaler qu'avec Anne Diaz au chant, c'est Julien Maillot à la batterie, Manu Slide aux guitares et Stéphane Billon à la contrebasse. Là encore, on reviendra sur cet album de Anne Diaz and Yucatan Brothers Alana, où on entendra davantage la chanteuse s'exprimer, puisque là, c'était Manu Slide au chant principal et Anne Diaz au chœur. On continue, et je vous l'avais dit, hein, cette séquence Europe est un peu folk blues, et voici donc, pour compléter ça, The Marshall, ça c'est tout nouveau, ça s'appelle le Petit Sham Session. On avait tout à l'heure My My Hey Hey par Hoffman Family Blues Experience, ben là, avec The Marshall, ça s'appelle Oh My.
Time since you were a smile, my dear. Oh,
Thomas Duchesneau à la batterie, aux percussions, Laurent Siguré à l'harmonica, Julien Robalo à la guitare et au chant, c'est The Marshall, le Petit Cham Session, enregistré au Mont d'Or, au Petit Cham, justement, en avril 2022, un album sorti tout récemment, The Marshalls. On continue avec My Rockers numéro 27, c'est Denis Sénécal qui va vous parler de Creedence Clearwater Revival. Je suis au téléphone avec Denis Sénécal. Bonjour Denis.
Bonjour Marc.
Comment ça va ?
Bonjour à tous. Bah, ça va très bien. Écoute, tout se passe bien en ce moment.
Tout se passe bien pour toi et pour le groupe. On va en parler. Tu fais partie maintenant, ça y est, de cette fameuse rubrique My Rock Heroes qui, depuis un petit peu plus d'un an, sur Sweet Home Chicago, se propose tout simplement de récupérer des vieux sons et puis de se souvenir de sa mise à l'étrier à la musique. Tous les amateurs de blues ont aimé le rock à un moment donné. Je sais que tu es amateur de blues et de rock, Denis. Hein.
Oui. Bah, j'ai commencé plus par du rock que du blues. Je suis venu au blues un petit peu plus tard. Donc, voilà quoi.
Et ça rentre carrément dans le focus de l'émission. Et là, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, voilà, comment est-ce que les premiers accents de rock te sont parvenus aux oreilles ? Est-ce que c'était par du live ? Est-ce que c'était par la radio ? Par des disques ?
Bah écoute, ça date de vieux, ça date de 1971. Le premier morceau qui m'a tapé aux oreilles, c'était Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival. J'étais en vacances en Italie avec une association. Et quand je suis revenu, mon frère était 6 ans plus vieux que moi, avait aussi avait commencé à jouer quelques accords de guitare. On avait récupéré avec un copain Cosmos Factory et tout est parti de là. Donc,
L'album Cosmos Factory de Creedence Clearwater Revival. C'est pas un album qu'on cite très souvent dans la discographie de Creedence parce que... Bah, il n'est pas qualifié comme étant leur meilleur, mais c'est celui-là qui t'avait tapé dans l'oreille en premier, c'est ça?
Oui. Pourtant, il était, en France, il a peut-être un peu moins marché, aux États-Unis, il était vendu à 4 millions d'exemplaires.
Oui, quand même.
Donc, Et en fait, j'ai usé le disque carrément, que j'ai toujours de côté d'ailleurs, le LP d'origine.
Que tu as dû racheter en CD après, j'imagine?
J'ai racheté, en album, en CD, Et puis tout est parti de là, donc la voix et la guitare, la musique de Creedence, quand j'ai écouté ça, j'ai dit c'est ça que je voudrais faire. Donc
En 1971, tu as quel âge ?
J'ai 14 ans.
14 ans.
Exactement.
Et c'est l'âge où effectivement on commence à s'éveiller musicalement parlant, le rock t'es arrivé, et puis c'était le swamp rock, c'est ça ?
Exactement, voilà.
Alors quelle est la définition du swamp rock ? Qu'est-ce que tu donnerais toi, Denis, comme définition à ça ?
Le swamp rock, c'était plus ou moins... inventé, peut-être qui diront le contraire, mais qui était plus ou moins inventé par Creedence, justement, par Fogerty, puisqu'il était, dans les années 60, il était passionné du Bayou, de la Louisiane, de la musique de Louisiane aussi, du blues et tout, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Donc, il a écrit pas mal de textes sur cette région-là, et il a mélangé, puisque ses premiers accords étaient plutôt rock 60s ou rock 50s, donc il a mélangé le rock avec des accents de blues avec des mélodies très simples de entre 1 et 2 accords, même bien souvent un accord, et ça a donné le swamp rock quoi.
Comment est-ce qu'on explique, Denis, que ce groupe-là qui s'est formé dès 1958 mais n'a pas été connu avant peut-être presque une dizaine d'années en fait?
Ils ont bricolé pas mal entre 58, ils ont formé un groupe, je veux dire, avec le batteur, avec Doug Clifford en 58, ils ont commencé à bricoler à 13-14 ans.
Ouais.
Ils ont fait venir Stu Cook après, qui était pianiste, donc qui n'était pas bassiste mais pianiste à la base. Et puis, en 59, ils ont fait leur premier concert. Ils ont traîné un peu dans les bars, dans les petits clubs à droite à gauche dans la baie de San Francisco, puisqu'ils sont de El Cerrito à la base.
Ouais.
Et ensuite, Tom Fogerty, qui était plus âgé de 4 ans, qui était déjà chanteur dans un groupe, les a rejoints fin 59. Et ils ont formé Tommy and the Blue Velvet. Et puis, ils ont commencé à travailler en studio en 61. Ils ont sorti un premier 45 tours à l'époque. Et de 61 à 64, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait quelques enregistrements, mais bon, la mayonnaise prenait pas. C'est dès que Fantasy a été racheté par Soul Zant en 67.
Fantasy, on parle du label hein, sur lequel enregistre
Crédence. Du label
Crédence.
Fantasy, ouais, mmh. Ouais, la maison de disques de San Francisco.
Voilà.
Donc en 67, c'était Soul Zant travaillait chez Fantasy, mais il a eu l'occasion de racheter la boutique qu'il vendait. Et il leur a fait confiance, il leur a fait signer un contrat, donc on peut parler du contrat après, parce que c'était le drame pendant la vie de Fogerty. 67, il leur a proposé carrément d'enregistrer un LP, et c'est là qu'ils ont ils ont sorti le premier LP en début 68, et vraiment la carrière a démarré à partir de ce moment.
Voilà, la discographie de Creedence Clearwater Revival avec Denis Sénécal. Alors toi, tu as consacré une bonne partie de ta vie musicale à ce groupe, parce que je me souviens de t'avoir vu sur scène, mais à chaque fois c'est la chemise à carreaux comme John Fogerty, hein, c'est ça,
ouais.
Ça fait partie du gimmick.
Marqué,
hein.
J'ai vraiment été marqué, comme je disais, par le groupe, par la voix de Fogerty aussi. Bon, quand j'ai commencé, j'avais une petite voix. Forcément, à 14 ans, on n'a pas la voix finie, quoi. Hein.
Oui, mais tout le monde a eu 14 ans, John Fogerty aussi.
Ouais, ouais, ouais. Bah lui aussi. Ouais.
Alors lui, il avait 14 ans. C'était en 1959, si je calcule
59,
bien.
59, hein. Ouais, c'est ça. Il est né en 45. Ouais.
Tout à fait.
Ouais, et puis donc, bon, pour finir sur les influences, donc. On a monté avec mon frère s'est mis à la basse, donc on était en trio avec Didier Simonin, le batteur, et Yvon Sénécal, mon frère.
Ouais.
Et on a monté un trio, on a tourné tout le début des années, enfin milieu des années 70 plutôt, dans la région avec un groupe qui s'appelait Atlantide, et on faisait du 100% reprise Creedence. Ensuite on a fait quelques compositions et tout ça, et donc ça a marché pendant plusieurs années. On était vraiment à fond dans le Creedence.
Et là on est dans les années 70, 80, 90, Denis?
Là on est dans les années 70, on est jusqu'à 77, 78, parce qu'après il y a eu les périodes de service militaire, et bon, ça a cassé un petit peu le truc, quoi.
À l'époque, c'était obligatoire, donc, effectivement.
Ah, ouais. Et donc, si on finit un petit peu l'histoire du groupe, moi, je suis parti au service militaire, donc en 77. Ensuite, il y a eu un arrêt. Je suis parti 3 ans avec mon frère dans le midi. On avait pris une petite affaire, un petit commerce dans le midi. Et ensuite, quand on est revenu, mon frère a pas souhaité continuer. Donc, en 87, j'ai rencontré Laurent, notre bassiste actuel, et notre batteur, Alain, qui malheureusement est décédé en 90. 87 à 91, on a fait que des compos, plutôt des compos en français. Et ensuite, de 91 à 99, on a remonté un groupe à 4 ou un sac qui s'appelait toujours Atlantide. Et puis, on faisait de la reprise, de la compo, un peu du Southern Rock aussi. Enfin, j'étais un petit peu un mélange de tout. 99, je suis parti en Suède et en Belgique, 99-2000. Et en 2001, on a remonté un trio avec Alain Anquetil à la batterie et Laurent Debreuil, mon bassiste actuel, à la basse.
Qui s'appelait déjà Blue Steel?
Qui s'appelait Blue Steel, voilà. On a démarré Blue Steel en 2001.
D'accord.
Et puis, ça tourne toujours. Donc là, on s'est un petit peu plus orienté sur du Texas Blues. Quand j'ai écouté Stevie Ray Vaughan dans les années, fin des années 80, ça m'a marqué aussi. Peut-être pas autant que Creedence, mais bon, j'étais vraiment influencé à un moment donné par le Texas Blues. Donc le répertoire est un petit peu un mélange de Texas Blues et de Swamp Rock jusque maintenant, quoi. Thank you. Dernièrement, on a remonté un tribute de CCR aussi, enfin de Creedence.
Ouais.
Et là, on a à peu près une heure de Creedence. Donc, on a un peu deux casquettes. On a la casquette Blue Steel et la casquette tribute CCR.
Voilà, Creedence Clearwater Revival, qui est un groupe qui n'existe plus depuis fort longtemps. Mais John Fogerty, lui, continue de se produire. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des dates passées, et notamment une qui passe par Paris. Est-ce que tu as déjà pris ton billet, Denis?
Oui. Bah oui, j'ai le billet pour y aller. Ouais.
Est-ce que tu as déjà vu John Fogerty sur scène, j'imagine?
Oui, j'ai eu l'occasion de le voir en 2008 au Rex, au Grand Rex à Paris. Donc là, c'était des places assises, enfin comme ça va être d'ailleurs Boulogne-Billancourt. Mais j'ai eu l'occasion de le voir à Anvers aussi, dans une grande salle à Anvers.
Oui.
Où là, il y avait vraiment de l'ambiance, on était carrément devant la scène, donc c'était super.
Quoi. Oui, et puis en Belgique, ça se passe toujours avec un petit peu plus d'ambiance que par chez nous, on va dire.
Ah bah ouais, ouais. Ils ont un petit peu plus esprit rock que... Enfin, beaucoup de gens ont plus esprit rock qu'en France, en France. Il y a des rockers, mais un peu moins qu'en Belgique. Quoi.
Effectivement, oui. Ouais. Denis, est-ce que tu pourrais nous conseiller comme ça un album pour les gens qui voudraient ne pas acheter un best-of, mais un album original de Creedence Clearwater Revival? Ce serait lequel? Par lequel faudrait-il commencer?
Bah, moi, je dirais Cosmos Factory, parce que, en fait, ça regroupe le son prog, ça regroupe le rock des années 70. On a une super reprise de Heard Through the Grapevine.
De Marvin Gaye.
Qui avait repris Marvin Gaye aussi. Que cet album-là est vraiment complet, c'est vraiment le, pour moi, c'est le top. Hein.
Ouais,
alors... Les albums à éviter sont plutôt Mardi Gras, c'est le dernier qu'ils ont fait. Bon, là, ça a été un peu chaotique parce que il y avait la bagarre entre le bassiste Sukuk, le batteur Doug Clifford.
Et Tom Fogerty n'est plus dans le groupe à cette époque-là.
Tom Fogerty était parti.
Voilà.
Justement parce que, en fait, son frère manager tout le groupe, faisait toutes les compos, chantait. Enfin, il avait pris la place de chanteur. L'autre, il sentait plus sa place dans le groupe et il est parti. Et en plus, il devait se consacrer à la famille. Comme il était plus vieux, il était marié, il avait des enfants, etc. Donc, il a quitté le groupe en 71. Donc, le dernier album de 72 était un peu tiré par les cheveux puisque Doug Clifford et Sukuk voulaient aussi partir. Participer à la création. Donc Fogerty a dit bon, ok, chacun fait ses chansons, chacun va chanter une partie des chansons et composer. En fait, l'album n'a pas bien marché, quoi, parce que bon, c'était un peu un mélange de tout, mais il n'y avait plus vraiment l'étiquette de Creedence comme dans Cosmos Factory ou les albums précédents. Quoi.
Voilà, les albums précédents. Alors Cosmos Factory, un album qui te tient particulièrement à cœur. De mon côté, moi, j'aurais aussi conseillé Green River ou Willie and the Poor Boys, qui sont deux albums excellents et par ailleurs que j'avais pu écouter, moi, à leur sortie, puisque mes parents ont eu le bonheur de les acheter, c'était en 1969. Et,
ouais.
et là, à ce moment-là, effectivement, j'avais découvert ces toutes nouvelles sonorités. Hein, ça sonnait américain, comme on disait à l'époque. Hein, c'était pas des 45 tours, c'était des grands disques. Et
ouais.
Voilà, notamment ce Willie and the Poor Boys avec cette pochette superbe quand ils sont en train de jouer dans la rue là. Oui. Et puis dedans, ben, on trouve Fortunate Sound, Midnight Special, Down on the Corner, enfin Cotton Fields.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home.
Plein de belles choses. Il y a beaucoup moins, j'ai l'impression, dans Cosmos Factory, il y a beaucoup moins de classiques de Creedence, non ?
Oui, effectivement, il y a deux reprises, et puis, mais il y avait un son un peu plus moderne, ouais. il y avait plus d'énergie, enfin, je veux dire, c'est l'album qui a été le plus vendu, mais effectivement, Willie and the Poor Boy et Green River sont plus, on va dire, soit propres, c'est vraiment
C'est vraiment l'esprit, quoi.
C'est vraiment l'esprit du groupe de basse.
Ouais. Ouais. Effectivement, dans ce Cosmos Factory, on peut retrouver une autre reprise de Body Delay, Before You Accuse Me, qui a été repris aussi maintes fois par des gens comme Clapton, etc. Et puis My Baby Left Me de Big Boy Crudup, chose qui n'est pas forcément vraie pour les autres albums où il y a davantage de compositions, bien sûr.
Il y a davantage de compos, exactement. Ouais. C'est un peu, j'ai dit Cosmos Factory parce qu'en fait, c'est un petit peu l'album qui l'a le plus marqué.
Et puis, le plus abouti peut-être par rapport à ce que tu disais.
Voilà, ouais. Bah, faut quand même savoir qu'ils ont enregistré 3 albums en 1969.
Hein. Oui.
Donc 3 albums dans l'année, ça fait quand même, ça fait beaucoup. La plupart du temps, beaucoup de chansons sur Willie and the Poor Boy et Green River et Bayou Country, puisque c'est les 3 albums qui étaient enregistrés en 69, étaient faits en une prise. Hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient énormément de répétitions avant. Ils arrivaient en studio, en une prise, c'était terminé. Quoi.
On a écouté tout à l'heure un titre de Blue Steel, donc dans ton répertoire, et puis maintenant, c'est toi qui va nous présenter un morceau de ton choix, Creedence Clearwater Revival. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire entendre ?
J'ai choisi Born on the Bayou parce que c'était vraiment le premier gros titre swamp pop de Creedence. C'était composé lors d'une répète. La version Duke Clifford, c'est que Duke Clifford a démarré sur un rythme et c'est John Fogerty qui a enchaîné avec un accord, puisque c'était un accord de mi-septième, enfin un riff en mi-septième. Et John Fogerty dit l'envers, dit que c'est lui qui a commencé à jouer un accord et que c'est Duke Clifford qui a mis le rythme dessus. Mais peu importe, ça a été créé vraiment comme ça, quoi, sur le pouce. C'est génial, quoi, c'est un morceau que j'adore jouer aussi et chanter. Bon, c'est un de mes morceaux préférés. Cosmos Factory, ça vient de Cosmo, qui était le surnom du batteur, parce qu'il était amateur d'astronomie et tout ça.
Ah oui.
Comme John Fogerty a imposé un rythme, je veux dire, de répétition quotidien à Berkeley dans le local où ils étaient, ça devenait carrément l'usine et c'est justement
c'est le batteur du hangar où ils répétaient, c'est ça ?
C'est ça. Le batteur a surnommé le hangar la factory, donc c'était devenu la Cosmos Factory.
D'accord.
Il y a l'usine de Cosmo et donc ça a donné le titre de l'album.
Dans
après,
le titre de l'album,
justement la pochette dans le local. Quoi.
Voilà, Denis après, Born on the Bayou qu'on va écouter dans quelques instants. Juste une toute dernière question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'œuvre Creedence Clearwater et justement, à travers ça, comment est-ce qu'on explique la longévité d'un garçon comme John Fogerty qui continue à se produire sur scène à l'âge de 78 ans, à l'instar de, par exemple, de Paul McCartney ou de Mick Jagger ?
Ce qu'il faut retenir déjà à la base de Creedence, c'est qu'ils sont sortis parce qu'ils étaient à contre-courant dans les années 70 du rock psyché comme Grateful Dead, Jefferson Airplane et tout ça.
Oui.
Donc ils étaient plutôt mal vus de la population hippie à l'époque, enfin de la population rock de San Francisco. Mais ce qui a fait leur force, c'est qu'ils ont continué dans le style swamp rock. Et ensuite, ils se sont attirés toutes les foules de San Francisco parce que justement, ils étaient à part des autres, ils avaient des sons à part. Il n'y avait jamais, je veux dire, dans les textes, il n'y avait jamais de, parlait jamais de drogue, de sexe, de violence. Parlait plutôt, je veux dire, de famille, d'enfance et puis aussi de contestation de certains régimes comme la guerre du Vietnam et tout ça. Big Fortune Nation. Donc ça les a mis vraiment à part des autres groupes. Et en définitive, en 1970, ils étaient le groupe le plus en vogue des États-Unis, quoi.
Ah oui, oui. Oui, et par rapport à la vitalité toujours actuelle de John Fogerty, comment est-ce que tu expliques ça? C'est pas que les drogues et les médicaments, justement. C'est le sport, peut-être, je sais pas.
Ils n'en ont jamais consommé. Voilà. Ils n'ont jamais consommé de drogue ni d'alcool. Alors Fogerty serait, à un moment donné, aurait un peu basculé, se serait mis un peu dans l'alcool et la drogue, parce que pendant une courte période, parce qu'il était en désaccord avec Fantasy, puisqu'il avait signé un contrat pas possible en 1967, donc il n'a jamais pu se débarrasser, sauf là dernièrement, il a récupéré tous ses droits il y a quelques mois. À part cette petite période-là, je veux dire, il a toujours été clean, donc c'est ce qui explique peut-être aussi qu'il a gardé l'esprit et la vitalité qu'il a actuellement, quoi.
Voilà.
Donc, il a été retiré pendant 10 ans dans une ferme aussi, avec sa famille, jusqu'en 1985. Il a eu une vie saine et tout. Et puis, ensuite, 85-86, il a refait 2 albums. Il y a eu un trou après, jusqu'en 97. Et depuis 97, il est remonté sur scène avec des morceaux de Creedence qu'il a accepté à nouveau de jouer, parce que pendant des années, il voulait plus les jouer à cause du contrat avec Fantasy.
Oui.
Puis depuis, ça continue, même avec ses enfants maintenant. Il a ses 2 fils, enfin, au moins un de ses fils qui est toujours avec lui sur scène, en guitariste rythmique. Son deuxième fils qui est avec lui de temps en temps aussi. Et même sa fille avec qui il a fait un album qui s'appelle Fogerty's Factory, où ils reprennent pas mal d'anciens titres de Creedence. Donc effectivement, il garde la pêche, quoi, jusqu'à 78 ans. C'est beau, quoi.
Et puis on lui souhaite de continuer, bien sûr, ce titre qui avait été réenregistré d'ailleurs bien plus tard, il y a une petite dizaine d'années, avec un certain Kid Rock. Hein, John Fogerty avait réenregistré ce morceau, celui que tu viens de nous présenter, Born. Oui. On the Bayou. On va écouter la version originale, bien sûr. Merci, Denis. Et puis, à très bientôt.
Merci. Merci à toi et merci à tous les gens qui nous écoutent, en tous les cas. Puis, merci à toi, l'émission.
À bientôt. À bientôt, Denis. Salut.
Salut.
Oh,
Merci à toi Denis Sénécal qui nous a fait réécouter ces extraits de Cosmos Factory et notamment Born on the Bayou version live. Et on a écouté au fil de cette interview Up Around the Bend sur l'album Cosmos Factory. On a écouté également Blue Steel dans California Dream, puis à nouveau Creedence I Heard It Through the Grapevine toujours sur Cosmos Factory et un extrait de Cotton Fields dans l'album Willie and the Poor Boys. On se retrouve dans 15 jours pour le 28e My Rockers. Et pour conclure ce 1193e Sweet Home Chicago première partie, voici à nouveau Bernard Selam, The Boys from the Hood, l'album Feeling So Fine, dont voici un extrait, Never Said a Word. Bernard Selam and the Boys from the Hood, extrait de Feeling So Fine. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de Sweet Home Chicago avec l'interview de Manu Lanvin et Gérard Lanvin au dernier Cognac Blues Passion. Come on, baby, don't you make me laugh.